Alors, l'énergie, sujet important s'il en est pour l'humanité et pour notre thème du festival Les Machines, puisque pour alimenter ces machines, il nous faut bien de l'énergie. Et les besoins en énergie de l'humanité sont en train de croître exponentiellement, déjà depuis la révolution industrielle, mais de plus en plus, puisque j'ai noté qu'avec l'intelligence artificielle, l'informatique, etc., nous dépensons 20 000 kWh chaque seconde. 20 000 kWh, comme ça peut être un peu abstrait, chaque seconde. Hein. Des ingénieurs s'amusent à calculer ce que ça fait en termes de puissance d'esclave, par exemple. Et 20 000 kWh, ça représente 330 esclaves. Je pense que c'est assez parlant. Donc du coup, on n'est pas du tout en train de dépenser de moins en moins d'énergie, bien au contraire. Et depuis la révolution industrielle, on diversifie les modes de production et les sources d'énergie. Le charbon, bien sûr, c'est ce qui a permis de faire cette fameuse révolution industrielle. Le pétrole, ça nous a permis en particulier de faire des plus lourds que l'air, l'aviation. Et très vite, on s'est aperçu de problèmes, le coût que ça a pour l'humanité d'avoir de l'énergie en termes d'environnement, de coûts, de besoins aussi en puissance toujours de travail. Et on va donc du coup balayer tous ces sujets. Alors avec nous, Nathalie Besson, vous la connaissez peut-être si vous nous avez écouté tout à l'heure, qui est chercheuse au service de physique des particules de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alain Bécoulet, qui est à sa gauche, qui est également directeur de recherche au CEA et chef de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique. Il travaille en particulier sur le gros projet ITER. Nous avons Olivier Joubert à ma gauche, professeur de chimie des matériaux à Polytech Nantes et Centrale Nantes, chercheur à l'Institut des matériaux de Nantes et spécialiste de la filière hydrogène. Vous êtes aussi, Olivier Joubert, directeur du groupe de recherche hydrogène, système et piles à combustible du CNRS, qui regroupe plusieurs laboratoires en France. Et nous avons, peut-être je vais vous laisser dire votre nom parce que du coup c'est improvisé,
oui,
un artiste avec nous.
Un artiste, oui. Donc moi je m'appelle Jérôme Lefdupe et donc j'expose, je fais des petites machines aussi qui sont exposées juste ici, là. Et on m'a demandé de participer en tant que candide, j'imagine, parce qu'évidemment je n'ai pas du tout les mêmes capacités que vous autres. Mais bon, si je peux dire quelques stupidités de temps à autre, je ne m'en priverai pas, donc.
Vous serez le bienvenu. Nous avons une table ronde à connotation très scientifique, donc un petit peu d'imaginaire sera la bienvenue. Alors, sur la question que je posais des problèmes environnementaux et en particulier le gros problème du charbon et du pétrole, vous le savez tous, c'est le dégagement de CO2 et l'effet de serre qui en résulte et qui tend à réchauffer le climat, à changer le climat en tout cas. Est-ce qu'on a un espoir dans l'avenir, plus ou moins proche, de s'abstraire de ce problème-là? Et est-ce qu'on pourra faire de l'énergie avec de l'eau, tout simplement? C'est Olivier Joubert qui va nous répondre à cette question.
Bonjour à tous. C'est une bonne question. Peut-on essayer de trouver de l'énergie à partir de l'eau? Alors, je pense qu'il y a, si vous avez bien lu Jules Verne, qui est notre référence ici à Nantes, il disait dans L'île mystérieuse, l'eau est le charbon de l'avenir, c'était en 1875. En fait, il n'avait pas vraiment découvert ou anticipé l'hydrogène, puisque la pile à combustible et donc l'hydrogène avait été découverte environ 30 ans à peu près avant. Et effectivement, grâce à l'eau qu'on peut décomposer à partir d'électricité en hydrogène, en oxygène, eh bien, si on arrive à stocker efficacement cet hydrogène, on peut après le recombiner avec l'oxygène pour faire de l'électricité. Et cette électricité, on peut l'utiliser dans une voiture ou bien dans une, voire même un avion, et, ou bien tout autre équipement, une perceuse ou bien un téléphone portable. Donc, est-ce que c'est l'avenir ? On voit ici une voiture. On a vu une voiture passer, là. C'est une voiture qui est actuellement commercialisée par Toyota. Je ne ferai pas de publicité, mais je dirais qu'il y a deux constructeurs qui commercialisent actuellement des voitures à hydrogène. Ce sont des voitures électriques, principalement, donc, et avec une batterie et un réservoir d'hydrogène qui donc transfère cette énergie à travers une pile à combustible à un moteur électrique. Alors, est-ce que c'est l'avenir ? Oui, pour moi, en partie. Hein. De toute façon, l'avenir, c'est un système où on aura ce qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire une production à travers différentes sources d'énergie. L'hydrogène en est une. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'eau, si on a une source d'électricité, on va dire verte, j'irais de l'éolienne, de l'éolien plutôt, ou bien du photovoltaïque, eh bien, cette énergie, étant donné qu'elle est intermittente, le jour on en a beaucoup, la nuit on n'en a pas, par exemple, ou quand il n'y a pas de vent ou il y a du vent, cette énergie, il faut la stocker. Et un des moyens de stockage de cette énergie, c'est l'électrolyse. Donc, on transfère cette énergie sous forme d'énergie chimique, sous forme d'hydrogène. Cet hydrogène, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on le transporte. Donc ça, c'est facile à transporter. Il existe dans le nord de la France, par exemple, déjà, des pipelines d'hydrogène, ou bien on transporte à partir de camions ou autres, vers des stations-service qui peuvent alimenter donc des voitures ou bien des bus ou bien des navires. Il va y avoir sur Nantes un petit navibus. Il y a une exposition juste à côté ici sur le navibus de la Sémitan qui va fonctionner à partir de cette source d'énergie hydrogène. Il y aura aussi des voitures. Il y a actuellement des voitures à hydrogène qui parcourent Nantes et les environs. Et avec cet hydrogène, on peut arriver à avoir une autonomie largement supérieure aux batteries. La voiture qu'on voit passer ici, là, la voiture de chez Toyota qui s'appelle la Mirai, a une autonomie d'environ entre 600 à 700 km. Une voiture électrique avec 600 à 700 km, il n'y en a pas beaucoup. Avec 6 kg d'hydrogène, c'est ce qu'on peut faire à peu près. On considère qu'avec 1 kg d'hydrogène, on peut faire 100 km avec une voiture.
Alors l'hydrogène, ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, puisque les modules de service d'Apollo étaient déjà alimentés par une pile à combustible.
Effectivement, initialement, l'hydrogène, comme tout le monde sait, c'est produit pour les fusées. Hein, on a la plus grosse production d'hydrogène en France et à Kourou, en Guyane, et c'est pour la fusée donc Ariane, on va dire. Hein. Et dans les années 60, on a voulu envoyer des êtres humains sur la Lune. Et pour cela, il fallait alimenter en électricité des ordinateurs, etc. etc. et avoir aussi de l'eau hein, pour ces astronautes. Et on a tout de suite pensé que la pile à combustible, étant donné qu'elle se nourrit d'hydrogène et d'oxygène, c'était l'idéal dans une fusée. Sachant que dans une fusée, on n'a pas le droit de faire de combustion. Donc la pile à combustible, qui n'est pas une pile à combustion, hein, mais il n'y a pas de combustion d'hydrogène, c'est une réaction électrochimique, comme dans une pile de nos téléphones portables. Eh bien, cette pile a été développée, pile à combustible, pour les astronautes, pour les missions Apollo, on va dire.
D'accord. Vous intervenez quand vous voulez, hein ?
Pour l'instant, j'écoute, j'apprends.
Très bien.
Donc en définitive, pour répondre à votre question, oui, je pense que l'eau peut être, on va dire, le charbon de l'avenir, hein, sachant que, encore une fois, la pile à combustible donc fait réagir l'hydrogène et l'oxygène et ne produit que d'eau, que de l'eau. Donc cette eau-là, on pourrait la récupérer, bon, sauf si c'est une voiture. Alors les voitures Mirai, bien souvent, on voit des personnes qui vont derrière le pot d'échappement C'est quoi? Eh bien, on a de l'eau et cette eau-là, elle est presque buvable. Sauf qu'elle n'est pas minéralisée, mais on pourrait la boire. On peut mettre. Il y a des gens qui mettent du thé dedans, puisque l'eau est sort chaude, et ils font leur thé avec l'eau qui sort du pot d'échappement de la voiture.
C'est-à-dire que si elle est en panne et qu'on doit la pousser, au moins on peut boire de l'eau pour se. Ça, c'est pratique.
Si elle est en panne, c'est un autre problème.
Quand on a fait les 600 km. On peut finir en poussant, en buvant l'eau.
Le problème, il est là, en fait. C'est la station-service, il faudrait qu'il y en ait au bout des 600 km. Donc, oui. Il faut alimenter des stations-service. Et il faut aussi produire des véhicules. Et actuellement, c'est le souci, c'est comment faire tourner l'ensemble de systèmes station-service et véhicules. S'il n'y a pas de véhicules et qu'il y a des stations-service, ça ne marche pas. Et si c'est le contraire, ça ne marche pas non plus.
Oui.
Alors après, la source d'énergie moderne et qui inspire beaucoup l'ASF par excellence, c'est le nucléaire. Le nucléaire, d'un seul coup, une énergie disponible énorme, puisqu'il y a une très grande différence en ordre de grandeur entre l'énergie accessible par combustion et réaction chimique et l'énergie disponible au sein du noyau. C'est une question de physique aussi. Les fameux bosons qui médient les forces nucléaires libèrent une énergie énorme. Alors, le nucléaire, ça a eu de beaux jours. On y a cru beaucoup. Est-ce que vous croyez qu'on y croit moins maintenant?
Oh, est-ce qu'on y croit moins? Faut pas me demander ça à moi. Moi, j'y crois, sinon je travaillerais pas dedans. Mais évidemment, ça a eu des beaux jours. C'est-à-dire que ça nous a permis, simplement, si on raisonne sur la nation France, ça nous a permis, au moment du premier choc pétrolier, d'acquérir une véritable indépendance énergétique et de pouvoir continuer à nous développer, puisque énergie, consommation d'énergie et développement, consommation d'énergie et croissance, ça c'est la même chose. C'est une équation toute simple. Donc il n'y a pas de croissance, au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas de croissance sans consommation d'énergie, donc ça, il faut le savoir. Et donc ça nous a permis de décoller dans les années 70 et de prendre réellement une indépendance vis-à-vis de ce qui, à ce moment-là, était un véritable étouffement en politique, qui était le prix du pétrole. Puis après, cette énergie qui s'est développée beaucoup en France, pas mal aux États-Unis, en Russie, en Chine, mais un peu moins dans d'autres pays, elle a connu effectivement les aléas économiques. Donc plus le pétrole est cher, plus elle est attirante. Moins le pétrole est cher, moins elle est attirante. On voit ça vivre très, très facilement. Et puis après, elle a commencé avec sa maturité à faire face à ses problèmes de gestion des déchets, de démantèlement, etc. Et donc on s'est aperçu que cette énergie qui est beaucoup moins chère que les autres actuellement, en tout cas que les énergies de type pétrolier en particulier, elle amène un certain nombre d'inconvénients qu'il faut gérer, qu'il faut traiter. Alors on le savait depuis le début, mais on n'y faisait pas face, puisqu'au début tout allait bien, les 40 premières années on n'avait pas à faire ça, et maintenant on est dans la phase, pour la fission en particulier, on est dans la phase de démantèlement des premières centrales, etc. Oui. Donc effectivement, y a un prix à payer, mais ce prix à payer, on l'a capitalisé quand même. C'est-à-dire que pendant 40-50 ans, on a payé beaucoup moins cher notre énergie aussi, il faut le savoir.
Le prix à payer est étalé maintenant sur de longues périodes.
Il a été provisionné, dans tout ce que nous payons, tout un chacun, dans le prix du kilowattheure. Et donc maintenant, il y a des démantèlements. Et puis, il y a le problème de la gestion des déchets, l'ouverture du centre de Bure, etc. Donc maintenant, il faut trouver des solutions pérennes pour stocker les déchets de la fission nucléaire.
Et la question de la sécurité aussi des centrales, qu'on progresse?
C'est vrai que c'est greffé là-dessus plusieurs choses. C'est greffé là-dessus La fission nucléaire, elle a connu et elle connaît encore des étapes d'amélioration. Donc on a des premières centrales, puis des secondes générations, troisième génération. À chaque fois, on a vécu des sauts en termes de technologie, principalement liés à des sauts en termes de sécurité, sûreté-sécurité. Rappelons que les centrales de type Tchernobyl ou même Fukushima sont des centrales qui sont de très vieille conception, avec peu de barrières de confinement, etc., avec des systèmes de sécurité qui étaient, on va dire, initiaux ou peu développés. Et puis aujourd'hui, nous, on vit sur, en France en particulier ou dans le monde sur ce qu'on appelle les générations 2, c'est-à-dire des centrales qui sont déjà pas mal sûres, beaucoup plus sûres que celles-là. On est en train de passer aux centrales dites EPR, vous avez entendu parler de Flamanville et autres, qui sont les générations 3, qui sont intrinsèquement beaucoup plus sûres. Et puis se prépare dans les cartons de l'industrie nucléaire la fameuse génération 4, qui est la génération où on va revenir sur des centrales qui non seulement sont plus sûres, mais qui brûlent beaucoup mieux le combustible, c'est-à-dire qui génèrent beaucoup moins de déchets. Si vous êtes dans votre cheminée, qui vont vraiment brûler votre bûche de bois jusqu'à la cendre complètement et pas laisser encore des déchets qui sont mal utilisés, mal gérés. Voire pour ces centrales-là, dans certaines options, pouvoir rebrûler des choses qu'on a mal brûlées dans les centrales précédentes. Donc avec une meilleure gestion et quelque part avec une bien meilleure durée de vie, parce qu'on va piocher beaucoup moins dans les réserves naturelles puisqu'on va pouvoir brûler beaucoup mieux celles qu'on a déjà utilisées.
Alors, si on fait un peu de prospective et de science-fiction, là, cette fois, l'énergie qui nous fait un peu rêver, c'est la fusion. Alors, c'est plus votre truc.
Oui, c'est mon domaine.
Vous avez, merci, accepté de parler un peu de l'énergie nucléaire de fission, parce que ça me semblait impossible de faire l'impasse dessus. Mais le rêve pour demain, vous nous direz à quelle échéance, ce sera une énergie nucléaire de fusion, c'est-à-dire qui mime ce qui se passe au cœur des étoiles.
Les étoiles, voilà.
Et d'où le projet ITER, ça sert à quoi ce projet? Quel est l'objectif de ce projet?
Alors, il faut revenir sur ce qu'on vient de dire, justement. Tout ce développement de l'énergie nucléaire
avec les
défauts qu'on a détectés au fur et à mesure, problèmes de criticité, problèmes de gestion des déchets, etc. Et on s'est dit très vite, pratiquement en même temps qu'on a commencé à développer l'énergie de fission, on s'est dit très vite qu'on pouvait se baser sur les réactions inverses. Au lieu de casser des gros noyaux, c'est ça la fission qui donne de l'énergie. On peut aussi essayer de coller des tout petits noyaux, des isotopes essentiellement d'hydrogène, des noyaux qui sont des très petits noyaux tout au début de la table périodique. Et en arrivant à les approcher suffisamment et à les coller, ça dégage de l'énergie, c'est ce qui se passe dans les étoiles. Et ça, on le savait assez tôt. Et on a commencé, dans les années 50, à essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour reproduire les mêmes conditions que ce qu'on a dans le Soleil. Donc, en fait, quelles sont les machines? Vous avez l'illustration ici du projet ITER. Quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir recréer ce petit morceau de Soleil sur Terre? Alors, le défi, il est de faire une boîte qu'on va appeler un tokamak, c'est ce que vous voyez là, qui va piéger un milieu extrêmement chaud, va monter à 150-200 millions de degrés. La matière à cet état-là s'appelle un plasma, c'est-à-dire que les atomes se sont complètement épluchés de leurs électrons, les noyaux et les électrons sont libres, c'est une soupe de noyaux et d'électrons. Et si on arrive à enfermer cette soupe extrêmement chaude dans une boîte sans qu'elle vienne toucher les parois, c'est ça le défi, eh bien, on va pouvoir, en arrivant vers ces températures-là, on va pouvoir commencer à avoir ces réactions de fusion qui vont s'entretenir et qui vont faire un mini-soleil sur Terre. Donc, les machines qu'on développe depuis une cinquantaine d'années s'appellent des tokamaks. Et aujourd'hui, la recherche en est, on va dire, à peu près à mi-chemin. On a fait les démonstrations scientifiques que ça, c'était possible. On a fait pas mal de démonstrations technologiques qu'on savait confiner ce milieu plasma, ce milieu extrêmement chaud, sans qu'il vienne tout faire fondre, tout faire même évaporer, parce qu'à cette température-là, rien ne résiste. Grâce à des champs magnétiques, c'est essentiellement la recette, c'est le champ magnétique qui va piéger ces particules chargées. Et on est à l'étape ITER, ce que vous avez devant vous, qui est la machine qui atteint la bonne taille, les bonnes conditions de champ magnétique, de pression, de température, de courant, etc., pour être le premier prototype intégré de ce qui pourrait être un réacteur nucléaire sur la base de fission. Donc on est dans une étape de démonstration dite de faisabilité intégrée, c'est-à-dire où on va mettre tous les éléments de physique qu'on a développés, tous les éléments de technologie, tous ensemble, pour créer un plasma qui va, à terme, nous donner 10 fois plus d'énergie que ce qu'on va lui avoir injecté, que ce qu'on va on va le chauffer. Hein, c'est quelque chose qui a besoin d'être chauffé. La deuxième partie du film va vous le montrer. Essentiellement, on va injecter 50 mégawatts, 50 millions de watts dans ce milieu-là, et il va nous en redonner 500. Donc ça va se passer, je vous dis, à 150 millions de degrés. Ça va se passer dans cette machine qui s'appelle ITER, qui est en cours de construction en France. C'est un projet totalement international, mais c'est la France qui l'héberge. Sur le site de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, vous voyez ici un cartoon sur la façon dont le plasma se forme. Donc, c'est un gaz qu'on va chauffer extrêmement violemment par des systèmes de chauffage extérieur. Et puis, en chauffant et en gardant cette chaleur à lui-même, eh bien, il va se mettre à igniter, c'est-à-dire qu'il va se mettre, les réactions de fusion vont se mettre à se propager, à se déclencher.
Et l'expérience va démarrer quand ?
Alors aujourd'hui, donc, on est en phase de construction. Le premier plasma d'ITER est prévu à peu près pour 2025. Ce que je vous dis, cet état qu'on veut lui faire atteindre d'à peu près d'un amplificateur de 10 fois l'énergie qu'on lui injecte sera à peu près en 2035, quelque chose. Et ça ouvrira la voie au premier réacteur de démonstration, puisque ITER, il lui manquera encore quelques technologies, en particulier la technologie de fabrication in situ de son combustible, puisque le gros avantage, c'est que non seulement le combustible est un combustible qu'on trouve partout sur Terre, mais en plus, la partie tritium dont il a besoin peut être fabriquée in situ. C'est-à-dire que c'est un réacteur nucléaire qui ne verra jamais de produits radioactifs ni entrer ni sortir. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut atteindre. Donc ça devrait se passer vers les années 2035, qui devrait ouvrir la voie à la construction du premier réacteur de démonstration.
Alors, on a bien compris qu'avec l'hydrogène et la fusion, on ne libère pas de pollution ni de déchets. Est-ce que d'un point de vue développement durable, comme on dit maintenant, ça utilise des ressources naturelles susceptibles d'être épuisées ?
Non, alors, le combustible lui-même, donc pour revenir un petit peu plus précisément, la réaction, ce sont les deux isotopes de l'hydrogène, qu'on appelle le deutérium et le tritium, qui vont fusionner. Le deutérium, on le trouve dans l'eau de mer, pas de problème, on l'extrait de l'eau de mer, et franchement, il y en a pour des centaines de millions d'années de réserves pour faire toute l'énergie qu'on en a besoin sur la planète pendant ces mêmes 100 millions d'années, donc ça, c'est pas le problème. Et le tritium, comme je vous disais, il n'existe pas au naturel sur Terre, on doit le fabriquer, et en fait, on va le fabriquer avec du lithium, c'est-à-dire la ressource initiale, c'est du lithium qui se trouve également dans la croûte terrestre et dans l'eau de mer, donc on va extraire. Et ce lithium, il est bombardé par les neutrons de la réaction elle-même, il fabrique le tritium. Le tritium est recyclé, revient dans le plasma et brûlé, etc. Comme ça. Donc il est fabriqué in situ et brûlé in situ. Ces ressources-là sont franchement, au jour d'aujourd'hui, on va dire inépuisable à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est pas évidemment, on espère vivre ça plus longtemps. Donc, c'est aussi la première des réactions de fusion. On peut en utiliser d'autres pour aller plus loin. Elles sont plus difficiles à faire. Mais ce n'est pas les seules ressources. Vous voyez cette machine, c'est une machine qui fait 30 000 tonnes, c'est une machine qui fait 20 ou 25 mètres de haut, qui fait 1000 mètres cubes de plasma. Donc ce sont énormément de matériaux, des matériaux qu'on appelle face au plasma, des matériaux qui doivent encaisser cette chaleur qui arrive du plasma lui-même. Des matériaux qui sont des matériaux relativement précieux parce qu'il y a des fenêtres qui vont nous permettre de regarder, de le diagnostiquer, de le piloter, etc. Donc il y a toute une série de matériaux à laquelle la fusion fait appel. Et une partie de notre travail aujourd'hui, c'est de faire marcher ça. Et demain, ce sera de faire marcher ça en adaptant toutes les solutions techniques à des solutions qui sont économiquement viables. Le problème des ressources, c'est un problème. Épuiser des ressources, c'est en fait quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que dès qu'on commence à épuiser des ressources, les coûts augmentent. Voilà. Ça, c'est une source d'énergie. On veut à la fin que vous comme moi, on paye exactement le même prix, voire même moins au kilowattheure que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut à la fin, la dernière contrainte qui n'est pas une contrainte scientifique initiale, mais qui est la contrainte scientifique, je dirais, finale, c'est de fabriquer ça de façon économiquement saine et viable. Oui.
Et même question sur les piles à combustible. Est-ce qu'on utilise des matériaux qui sont susceptibles de s'épuiser ?
C'est une bonne question. Alors, je ne pense pas que ça soit de commune mesure avec ça, mais... pour moi, c'est complètement différent, mis à part que l'hydrogène est quelque part dans le même système, on va dire. L'hydrogène, on l'a bien vu, ça vient de l'eau. Actuellement, il faut de l'électricité pour séparer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'eau en hydrogène et en oxygène pour la pile à combustible, pour le réservoir. Actuellement, cette électricité, On peut aussi utiliser une autre source d'hydrogène à la place de l'électricité, on va dire, à la place de l'eau. C'est le méthane, puisque le méthane, on en a aussi une bonne réserve. Alors, pour moi, c'est vraiment pas la source d'hydrogène idéale, le méthane, puisque, grosso modo, il y a du carbone dans le méthane. Et lorsqu'on produit de l'hydrogène à partir du méthane, on produit, je dirais, beaucoup de CO2, in fine. Et cette source de CO2, eh bien, soit on arrive à la capter, c'est tout à fait possible. Au moment où on produit de l'hydrogène, on capte ce CO2. Et puis, on le met, par exemple, dans une carrière, c'est actuellement à l'étude. Ou bien, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'une voiture qui serait alimentée par de l'hydrogène issu de méthane, eh bien, émet autant de CO2 qu'une voiture diesel actuellement. Donc, utiliser de l'hydrogène venant du méthane, c'est pas très bon pour la planète. Par contre, si on utilise de l'hydrogène provenant d'eau qui a été séparée en utilisant de l'électricité d'origine verte, là, par contre, c'est intéressant. Donc, faut séparer les choses. Actuellement, bon, pendant quelques années, le temps que tous les systèmes d'électrolyse se mettent en route, on peut encore utiliser cet hydrogène issu de méthane, comme celui qui est utilisé actuellement pour les fusées Ariane, par exemple, ça vient du méthane. Et puis, doucement, d'ici une quinzaine d'années, tout l'hydrogène sera produit à partir d'électricité verte ou bien d'une source, on va dire, fatale d'électricité. Alors, ce qui était aussi possible, c'est d'utiliser cette chaleur qui parfois est produite par les centrales nucléaires. Ça a été pensé. Une centrale nucléaire, c'est un rendement qui est relativement faible, ça produit beaucoup de chaleur, et on pourrait utiliser cette chaleur qui est à haute température pour pouvoir séparer, encore une fois, l'hydrogène et l'oxygène de l'eau, et en utilisant un peu d'électricité qui peut être parfois aussi produite par des centrales nucléaires qui ne seraient pas utilisées. Donc ça aussi, c'est assez intéressant.
Si je peux rajouter, c'est le phénomène dit de la cogénération, c'est-à-dire que les nouvelles centrales, que ce soit les centrales à fission type génération 4, où les réacteurs à fusion sont des centrales qui sont refroidies à très haute température, en fait, qui fonctionnent avec des systèmes de refroidissement qui peuvent atteindre 800-900 degrés. Et ça, c'est très très favorable, effectivement, à les coupler à un système de cogénération d'hydrogène, etc. Donc on est capable de faire non seulement de l'électricité qu'on va délivrer sur le réseau, mais de produire de l'hydrogène en même temps. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on s'oriente aussi, vers des unités de puissance qui sont celles qui ensuite délivreront un certain nombre de services comme cela pour ensuite avoir, par exemple, le vecteur hydrogène qui en permet d'être utilisé pour les transports, des choses comme ça.
Et l'hydrogène, on peut aussi la produire à partir de tout ce qui est constitué d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, etc., notamment la cellulose, qui est un produit qu'on peut trouver dans le bois ou bien dans les déchets, de façon générale. Et il existe des systèmes de type gazogène, c'est ce qu'on avait dans le temps pour produire notre gaz dit de gaz de ville. Il y avait des gazogènes à l'extérieur des villes qui produisaient ce mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène et qui alimentaient le réseau de gaz. Et la gazinière était alimentée par cela. Il y avait aussi des gazogènes derrière les voitures pendant la guerre et ça alimentait aussi ces voitures en ce mélange monoxyde de carbone et hydrogène. Et ce mélange-là, monoxyde de carbone et hydrogène, peut être utilisé pour alimenter une pile à combustible pour fabriquer l'électricité. Il y a des études actuellement donc, qui visent à développer un mix entre un gazogène qui serait alimenté par du bois ou toute ressource type forestière ou bien même des déchets ménagers ou autres déchets, et qui permettrait d'alimenter une pile à combustible pour fournir de l'électricité. Donc ça pourrait être dimensionné pour alimenter soit une maison, soit un immeuble ou autre, grâce à une énergie qu'on peut dire renouvelable, qui est le bois.
D'un point de vue artistique, j'ai exploré un peu votre exposition.
C'est zéro déchet.
Oui. Zéro
c'est
déchet.
Du recyclage pour la plupart.
Et l'énergie, c'est votre énergie créatrice.
Oui, on peut appeler ça comme ça. Oui.
Le plasma, ce gaz lumineux, ça vous inspire quelque chose? J'ai vu quelque chose qui m'évoquait le plasma dans un tokamak.
Oui, enfin, vous avez beaucoup d'imagination. Oui. Dans ce que j'appelle le néologramme des néboliens, où c'est des formes que, enfin, les formes elles-mêmes, j'appelle ça des glutes, ou des polyglutes, ou des métaglutes, pour donner un air un peu scientifique, justement. Sachant que la glute est une forme qui n'en a pas, qui change tout le temps de forme, donc elle est assez difficile à définir, et surtout c'est assez difficile de faire des familles de glutes, parce qu'il y en a qui sont multicolores, d'autres qui sont en noir et blanc, d'autres qui sont à plaques, ou d'autres qui sont velues, d'autres qui sont même invisibles, donc c'est très difficile. Mais bref, ces formes s'ébattent, en effet, dans un des appareils ici, où on pourrait penser que c'est comme un plasma dans le vide. Bon, c'est même pas des hologrammes, c'est ce que j'appelle des néologrammes, parce que c'est encore plus simple, c'est juste des reflets, un effet de reflet, mais bon, c'est le cerveau du spectateur qui fait tout le travail, en fait, enfin, qui fait une bonne partie du travail. Donc ça, voilà, au niveau énergie, moi, je suis très, comment dire, je fais des économies d'énergie. Voilà, moi, l'énergie que pourraient développer mes installations, c'est plus effectivement la capacité du spectateur à se raconter une histoire ou à essayer d'imaginer l'histoire que je lui raconte. Mais en général, il le fait mieux. C'est comme quand on lit un livre, on se fait le film. Et après, quand on voit le film qui est tiré du livre, on est toujours un peu déçu parce que c'est moins bien que le film qu'on se faisait soi-même. Bon, ben là, c'est un peu l'idée. C'est, j'allais dire interactif, c'est pas vraiment interactif, mais enfin bon, l'action du spectateur est au moins aussi importante que celle de l'artiste, on va dire, dans ce cas-là. Et voilà. Mais par contre, effectivement, bon, là, moi, j'ai pas je ne génère pas de déchets. Je peux générer des déchets intellectuels, peut-être, ça, c'est pas impossible, mais en tous les cas, bon, ils resteront pas des centaines de milliers d'années enfouis dans des endroits. Découvert trop tôt, mais voilà, a priori c'est plutôt ça, quoi. C'est beaucoup plus léger que les milliards de mégawatts, tout ça, je dois dire. Bon, mais
alors bon. Dans l'imaginaire de la science-fiction, il nous faut voyager. Il nous faut voyager loin. Alors on sait, on a vu qu'on avait utilisé des piles à combustible sur Apollo. Il y a encore beaucoup de réacteurs nucléaires dans beaucoup de sondes qui ont exploré le système solaire. Sur Mars, c'est beaucoup le cas. La sonde, je crois que Rosetta aussi était à propulsion nucléaire. C'est courant. Pour aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il va falloir ? Est-ce qu'il va falloir utiliser l'antimatière ? Est-ce qu'il va falloir utiliser l'énergie des trous noirs ? Vous avez une idée, Nathalie Besson ?
Non, non, mais moi, ma machine, c'est le LHC. Alors, je voyage pas, je reste au CERN, c'est ça qui est cool. Je voyage dans la connaissance, c'est pas mal, mais aucune idée. J'ai exploré pas mal de choses dans la science-fiction, n'est-ce pas ? Donc, il y a des voiles solaires. J'ai adoré le projet qui est... je me rappelle plus si c'est le mec de Google ou si c'est Google qui a dit « Bon, bah, c'est pas grave, on peut pas faire un très gros vaisseau pour aller explorer au-delà de notre étoile à nous. Donc, très bien, on va en envoyer des tas de tout petits avec des voiles solaires. Et on envoyait des tas de tout petits qui vont chacun récupérer une partie de l'information. » Et nous la renvoyer, et comme ça, on va quand même avoir des infos qui nous viennent de là-bas, parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, faire voyager très vite, à cause des limitations physiques, faire voyager très 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 vite des gros trucs, donc très bien, faisons voyager très 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 vite des tas de tout petits petits trucs, mais des nanos. Et puis, ils nous renverront l'information, et on reconstruira l'information à partir de... Donc il y a des projets comme ça. Alors maintenant, c'est l'info qui va voyager, nous être envoyée, c'est comme envoyer Rosetta sur la comète, nous on n'y est pas allé. Non, pour faire voyager l'homme très loin, dans l'état actuel des technologies, on peut fort probablement envoyer très loin un vaisseau. Maintenant, ça prend du temps. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur la cryo plutôt que sur comment cryogéniser un type et le réveiller après.
En tout cas, il va falloir faire des progrès et des découvertes dans le LHC pour comprendre comment on pourrait éventuellement exploiter l'énergie d'annihilation de matière, antimatière. On en est loin.
Ouais. Alors c'est surtout, j'allais faire ma mauvaise tête, comme je sais très bien faire parfois. J'allais dire, mais ça n'est pas mon job. Je fais de la recherche fondamentale et pas de la recherche appliquée. Donc, je ne sais même pas parier sur quoi vont déboucher les avancées qu'on fait dans les connaissances OLHC ou dans les instruments similaires qu'il y a sur la planète. Mais c'est pas mon job. Moi, j'ai envie de savoir comment ça marche fondamentalement. Après, bien sûr qu'il va y avoir des mecs géniaux qui vont s'emparer de ça et pouvoir atterrir sur la pile à hydrogène. À la base de tout ça, il y a une recherche fondamentale. Mais alors là, je suis sèche parce que j'ai jamais songé à utiliser le LHC pour aller explorer les étoiles.
Mais si c'est un festival de science-fiction, vous pouvez y aller. Hein.
Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Alors, mais nous, on en fait de la SF avec des instruments comme le LHC, parce que si on veut voir plus grand, voire très grand, à un moment, on s'est dit, très bien, on va en coller un. Il nous faut des grandes circonférences. Et ben, mettons un truc autour de la Lune. Ou, voilà. Donc oui, non, on n'est pas à court de projets, mais pas d'exploration spatiale dans ce que je fais, non.
Alain Bécoulé, le plasma, ça nous sert aussi dans les moteurs ioniques, non ?
Oui, alors... On travaille régulièrement, j'ai des questions du CNES qui reviennent dans ils ont une division qui va dans la prospection réellement. Donc ils me disent même, bon ben on se limite à rien, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et évidemment, ils m'ont questionné plusieurs fois sur qu'est-ce qu'on peut faire avec de la fusion. Est-ce qu'on peut faire un moteur à fusion? Alors, bon, par charité chrétienne, je ne dirais pas comment ils imaginaient le truc, mais ce qui est... L'état dans lequel on est aujourd'hui, vous voyez ces instruments-là, 1000 mètres cubes, c'est une cathédrale qui fait en tout, le bâtiment doit faire 60 mètres de haut. Et puis je vous ai dit à un moment donné que cette machine-là, qui est la première, et finalement la première fois où on peut générer 10 fois plus d'énergie que ce qu'on en injecte, et tout ça dépend de la taille, donc si on veut aller plus loin, ça devrait être encore plus gros, ça vous met des choses qui sont à 500 mégawatts, 1 gigawatt de puissance, c'est-à-dire que ça décadre complètement par rapport à ce qu'une fusée a besoin, ce dont une fusée a besoin. Donc, on ne sait pas encore miniaturiser ça. Personnellement, j'ai des doutes de scientifiques sur la miniaturisation de la chose, parce que la fusion est quelque chose à effet de seuil. Il y a une certaine taille en deçà de laquelle ça ne peut pas marcher. Donc, à voir, on pourra peut-être faire un petit peu plus petit, un petit peu, mais on n'ira jamais à quelques mégawatts, ce qu'une propulsion de fusée voudrait. L'autre problème, c'est que même si le petit bonhomme survit parce qu'on l'a congelé, il va mourir de deux choses, des radiations interplanétaires ou interstellaires qui existent déjà, plus s'il est assis sur un tokamak.
Moi, je n'y vais pas.
Hein. C'est des neutrons à 14 mèves, etc. Donc, moi, aujourd'hui, je sais le faire derrière une barrière biologique de 2 mètres de béton, etc. Je ne m'asseoirai pas dessus quand ça fonctionne, personnellement. Donc, c'est très, très... Alors là, on est très loin dans la science-fiction. Ce n'est pas impossible, mais faisons déjà l'étape de démonstration réelle, qui arrivera dans les décennies qui viennent. Il y aura peut-être une étape ensuite de miniaturisation ou quelque chose comme ça. L'étape de propulsion basée sur ça, nos arrière-petits-enfants ne la verront pas, je pense. Mais voilà. Mais pourquoi pas, on est là aussi pour ça. Hein. Donc moi, ça ne me dérange pas.
Revenons à la recherche fondamentale. Aujourd'hui, on a le LHC. Est-ce qu'on a des projets d'accélérateurs encore plus puissants?
Alors oui, parce qu'on est obligé de les avoir maintenant, hein, parce qu'il faut tellement de temps pour les concevoir, faire la R&D qui va bien, les construire, etc., qu'on pense maintenant aux futures générations. Pour vous donner une idée, dans le tunnel où est installé le LHC, avant, il y avait un collisionneur qui s'appelait le LEP et qui collisionnait des électrons contre des anti-électrons, d'accord ? Il n'était même pas construit qu'on lançait déjà le projet LHC, d'accord ? Donc, c'est vraiment la prochaine génération. On y travaille depuis déjà pas mal d'années. Alors, pour tout un tas de raisons techniques, si on veut monter à plus haute énergie, maintenant, il va falloir aller tout droit plutôt que de tourner, ou alors faire un beaucoup plus grand circulaire. Donc, ce qu'on a dans les cartons, c'est des projets donc, de linéaires, de collisionneurs linéaires. Mais alors, pour atteindre des hautes énergies, il faut que ce soit des très grands collisionneurs linéaires. Ça pose des problèmes d'alignement de tout un tas de choses. Ou alors des circulaires. Et là, on pense à des 100 km de circonférence. Donc là où est installé le LHC, on a été limité par la géologie, bêtement, hein, parce qu'il y a des montagnes, un lac, tout un tas de trucs qui nous enquiquinent. Donc on s'est mis au plus grand qu'on pouvait faire compte tenu de la géologie. Si on passe à l'étape du tube, au lieu d'être coincé dans les montagnes, on va tourner autour. Voilà. parce qu'il faut forer quand même, donc il y a un moment, il ne faut pas être trop profond. Et donc oui, c'est dans les cartons, il y a plusieurs projets qui sont à l'étude. Il y a énormément de difficultés technologiques, outre déjà le tunnel, les aimants, l'énergie que ça va consommer, les particules accélérées, il faut des sources, enfin, il y a plein de problèmes et on est en train de travailler dessus. Ouais. Ça ferait un monstre quand même, 100 km de circonférence.
Je vais encore oser la pousser à anticiper. C'est pour quand l'accélérateur sur la Lune ?
Ah non, mais celui-là, mais non, mais moi de toute façon, je serais pas là pour les voir. Les arrières, non. Je suis même pas sûre. C'est-à-dire que moi, j'espère très fort qu'à un moment, il va y avoir un changement de paradigme en physique pour qu'on découvre d'autres moyens d'étudier à haute énergie. C'est-à-dire que là, on commence à être. Enfin, non, là, on n'est pas bloqué. Comme je le dis, on peut faire des collisionneurs à 100 km de circonférence. C'est faisable, c'est parfaitement à notre portée. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, de l'investissement du cerveau aussi. Mais on sait le faire. Par contre, après, on va commencer à avoir, je veux dire, je rigole avec mon collisionneur sur la Lune parce que là, je me tourne vers mes collègues. Il va bien falloir que je l'alimente en énergie parce que moi, je la produis pas, je la consomme. Donc, voilà. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, moi, ce que je pense qui peut arriver de meilleur à la physique, ce qu'on appelle la physique que je fais, on appelle la physique de haute énergie, c'est un changement de paradigme qui va nous permettre de l'étudier autrement. Un exemple bête, le cosmos fabrique des particules qui sont beaucoup plus énergétiques que les miennes. Nous, on est à 7 téraélectronvolts par faisceau, d'accord, au maximum de ce que pourrait savoir faire le LHC. Dans l'univers, je vais me planter avec les zéros, mais on monte à 10 puissance 21 électronvolts. Donc à des énergies beaucoup plus colossales. Par contre, des événements beaucoup plus rares. Pour l'instant, notre problème, c'est que le taux de production, et je ne parle même pas de collision de ces machins à très très haute énergie, c'est pouillème. Mais
il faut être au bon endroit, au bon moment.
Oui, donc ça, c'est impossible. Donc il faut peut-être aller chercher ailleurs. Peut-être changer de façon d'étudier la haute énergie, je pense. Parce que oui, le LHC, je considère déjà ça comme un instrument gigantesque, vraiment, quoi. On est déjà dans le gros.
Bien, on va vous laisser la parole. Vous allez pouvoir poser des questions ou faire des commentaires, comme vous l'entendez. Il doit y avoir des micros qui circulent. Il y a déjà deux questions sur le premier rang. Je ne vois pas tellement les autres rangs. Et il y a des questions dans le fond aussi. Voilà. Allez-y. Je ne vois pas où est le micro. Ou alors, attendez, je vais vous passer le micro.
Alors, bonsoir. Alors, j'ai une petite remarque et une question, en fait. Ma remarque concerne, en fait, la pile à combustible pour l'hydrogène. Personnellement, il ne me semble pas tellement que l'eau de nos océans et nos forêts soit vraiment une bonne idée à exploiter encore plus pour obtenir l'hydrogène. Personnellement, il me semble qu'ils s'en prennent déjà assez. Peut-être une autre source, éventuellement, mais évitons celle-là. Je pense qu'ils en ont déjà assez sur le dos. Par contre, pour le nouveau type de centrale à fusion. Alors, le projet, personnellement, me paraît super intéressant, surtout le fait d'éviter de se retaper encore plus de déchets. Il y a juste un truc qui m'inquiète déjà avec les centrales actuelles. C'est la sécurité. Alors, renforcée depuis des années, etc. Mais la sécurité dépendante d'une chose, il me semble, c'est de l'entretien de nos centrales. Or, ça ne dépend pas de vous ni de moi, mais de nos États et de la bonne volonté de nos politiques. Or, on voit bien qu'on a un problème déjà avec ça. Je sais de quoi je parle, je viens de Belgique. Alors, avec Doel 1, Doel 2 et Tihange, vous savez où on en est. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que nous et vous, scientifiques vraiment à la pointe, on pourra avoir une influence sur eux pour vraiment les conscientiser sur l'importance de protéger ce type d'installation qui pourrait vraiment nous faire avancer vers quelque chose, effectivement, de bien moins polluant.
Juste concernant l'eau, il est bien entendu que l'eau qui est utilisée est exactement la même quantité que l'eau qui est produite à l'issue de la pile à combustible. Donc il n'y a aucune influence sur la quantité d'eau que vous allez avoir, que vous allez prélever. Donc vous utilisez 50 litres d'eau, vous allez la séparer en hydrogène et oxygène et vous allez récupérer 50 litres d'eau.
Ok, je retire ce que j'ai dit dans ce cas.
Tandis que, effectivement, si on applique à une source d'énergie de type méthane ou autre qui disparaît. Là, je suis d'accord, effectivement, on va produire du CO2. Là, on utilise la source d'énergie de notre planète. Et là, c'est, par contre, je suis d'accord, c'est pas bon. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment la source d'énergie qu'on doit utiliser. Gardons-la pour faire autre chose. On a besoin du pétrole pour faire du textile ou autre chose, d'accord ? Par contre, si on peut utiliser l'énergie, je dis, du solaire, le PV, on va dire, le photovoltaïque ou bien l'éolien, là, c'est, à mon avis, ça, c'est l'idéal. Pour le nucléaire, c'est une autre question. La parole.
Alors, ça me permet d'entrer dans un point que je n'ai pas eu le temps de développer et qui est un autre avantage de la fusion. Je ne veux pas faire le catalogue, je ne suis pas là pour faire de la vente. Dans une centrale à fission, vous allez mettre de l'uranium, plus ou moins enrichi, etc. Vous allez mettre un combustible dans une cuve. Vous allez fermer la cuve et vous allez utiliser ce combustible pendant un an et demi, deux ans. C'est-à-dire que vous stockez dans cette cuve de quoi produire de l'énergie pendant un an et demi, deux ans. Ce qui se passe, le problème de sécurité que vous évoquez, c'est s'il y a malveillance, s'il y a accident, s'il y a tremblement de terre, etc., s'il y a donc ce qu'on appelle une perte, en particulier du circuit de refroidissement, ce réacteur va se mettre à diverger tranquillement et va se mettre à produire l'énergie qu'il peut produire, et ça peut durer très longtemps, et ça peut dériver, ça peut faire des accidents nucléaires. Un des gros avantages de la fusion, quand on l'a conçue au départ, et la raison pour laquelle on s'y tient vraiment, même si c'est excessivement difficile, c'est que dans les 1000 mètres cubes que vous avez vus là tout à l'heure, qui est infiniment plus grand d'ailleurs qu'une cuve de centrale nucléaire elle-même, vous avez 1 gramme de matière. Vous avez exactement 4 secondes de production d'énergie. Si vous ne faites rien, si ça s'arrête, si le système de refroidissement s'arrête, si un avion tombe dessus, si tout ce que vous pouvez rêver, la réaction s'arrête, c'est terminé. La flamme du gaz est soufflée, c'est tout. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'avez pas... Le système s'arrête, tout simplement. Donc, il n'y a aucune capacité pour ces systèmes-là à diverger, parce qu'il n'y a aucune énergie stockée.
Diverger, ça veut dire s'emballer, non ?
S'emballer. Donc, c'est le gros, gros problème, le gros avantage, je dirais. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, on retrouve le même niveau de sécurité que, je veux dire, que n'importe quelle centrale à gaz ou je ne sais pas quoi. Alors après, ce n'est pas une raison pour ne pas se protéger, pour ne pas éviter la malveillance, etc. On connaît tout ce qui peut se passer. Je ne me présente pas aux élections, donc je ne répondrai pas à votre problème. Mais c'est clairement... Voilà, c'est donc techniquement, la réponse technique à la sûreté des centrales nucléaires, elle est faite dans la fusion par le fait que le système est intrinsèquement stable. Ne peut pas diverger, ne peut pas s'emballer et ne peut pas donner lieu à une explosion, à tout ce que vous pouvez fantasmer, que peut faire une centrale nucléaire classique parce qu'elle stocke énormément d'énergie pour une année de combustion, etc., au même endroit. Voilà.
Merci.
Bonsoir. Alors, j'avais une question sur ITER, donc concernant la fusion nucléaire.
Ah voilà. Oui. Oui, c'est bon, je vous vois.
Voilà. J'ai lu quelque part que la réaction de fusion nucléaire émettait beaucoup de neutrons et que ces neutrons ne pouvaient pas être confinés par un champ magnétique pour la simple et bonne raison qu'ils ont une charge neutre. Donc comment on fait pour retenir les neutrons et éviter qu'ils abîment le tokamak ?
Voilà. Alors non seulement on ne peut pas les retenir, mais on ne veut pas. C'est-à-dire que l'astuce, elle est justement dans le fait que cette réaction deutérium plus tritium, elle va donner un noyau d'hélium, donc le vrai déchet, et ce neutron qui part. Le neutron, effectivement, il sort du plasma puisqu'il n'est pas confinable par un champ magnétique. Mais c'est justement là l'astuce, c'est-à-dire qu'il va arriver sur les parois, si vous revoyez cette structure en forme de roue de vélo, il y a des parois autour, et c'est ces parois qui sont enrichies, enfin qui contiennent le lithium, et c'est ce lithium qui vient, dans lequel le neutron vient taper, et c'est là qu'il fabrique le tritium. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que le neutron sorte et vienne se terminer dans cette couverture qui, elle, va enrichir en lithium et va fabriquer le tritium. Donc c'est là qu'il va s'arrêter. Le neutron va s'arrêter dans cette couverture-là. Et le dimensionnement, bon, ce sont des couvertures qui font à peu près un mètre d'épaisseur avec enrichi en lithium. Et le neutron, il est capturé. On cherche même à faire une astuce supplémentaire qui fait que chaque neutron devrait fabriquer 1,2, 1,3 atomes de tritium parce qu'il faut que le système s'entretienne correctement. Mais le neutron est complètement arrêté dans cette structure.
Oui, moi j'ai deux questions par rapport à ITER justement. Peut-être un peu l'histoire des sciences et peut-être que ça va être une question bête, je ne sais pas. Mais pourquoi au final, est-ce que c'était une limite de connaissances ou techniques qu'on ait d'abord passé par les centrales nucléaires, l'énergie nucléaire et pourquoi pas tout de suite la fusion au final? Et deuxième temps, du coup c'est vachement capital de faire des projets comme ça sur ITER pour la suite, génération, etc. Et du coup quand on voit le temps que ça prend déjà de construction, de R&D, etc. jusqu'à temps que ça soit industrialisé et grand public, entre guillemets, est-ce que au final de recréer un soleil entre guillemets sur Terre, pourquoi ne pas, quelles sont les limites pour le photovoltaïque au final actuellement et qui fait qu'on n'utilise pas tout simplement déjà l'énergie qu'on a là actuellement?
Alors d'abord, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses idiotes. Il n'y a jamais de questions idiotes. Donc effectivement, technologiquement parlant, c'est beaucoup plus complexe de créer un plasma à 100 millions de degrés, de le contenir, etc. Il y a du développement, il y a besoin de matériaux spéciaux, etc. Donc c'est un peu méchant pour mes petits camarades, mais c'est quand même plus facile de faire une réaction de fission qu'une réaction de fusion. D'accord ? Donc l'un explique l'autre. Maintenant, votre question portait sur les mérites relatifs entre des développements comme ça qui sont très longs, qui sont relativement chers, et puis des développements dont on a au moins l'impression, je vous donnerai quelques chiffres, que c'est plus rapide et moins cher. Voilà. Alors, là, vous touchez le problème du mix énergétique qui n'est pas du tout le même problème que le problème du développement de sources d'énergie. Donc, l'homme, depuis qu'il est homme, il a cherché des sources d'énergie. Alors ça a commencé avec le cheval qui tirait la charrue, le feu, le charbon. Donc, et on arrive aujourd'hui avec un portefeuille de sources d'énergie possibles. Et ce que je disais tout à l'heure en préparant avec Bénédicte, même si vous avez une centrale nucléaire qui vous fournit l'électricité pour votre radiateur à la maison, vous avez toujours votre cheminée, parce que c'est toujours vachement sympa d'avoir un feu de cheminée. D'accord ? Donc on utilise toutes les sources d'énergie. Il n'y en a pas une qui est concurrente par rapport à l'autre. Par contre, on essaye de prévoir l'avenir et de se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va... Alors le solaire, on sait très bien qu'il est limité, à moins de faire un développement, et il y a des gens qui le cherchent, un saut vraiment notable en efficacité. Il va falloir paver toute la Terre pour arriver à avoir à peu près l'énergie qu'on veut. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une solution, c'est une solution locale qui peut nous permettre d'avoir soit localement 100%, soit globalement 7, 8, 10% de l'énergie dont vous avez besoin. On s'en sert partout, il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir. L'éolien, c'est pareil, l'hydroélectrique, c'est pareil, etc. Seulement, quand vous êtes en Norvège, quand vous êtes au Canada, vous n'avez pas besoin de nucléaire, vous avez assez d'hydroélectrique et il n'y a aucun problème. Si tout le monde habitait au Canada, on ne se serait jamais fait tout ce bazar. Mais quand vous êtes au fin fond du Sahel, quand vous êtes en Chine, vous avez besoin de sources différentes d'énergie parce que localement, vous n'avez pas ce qu'il faut. Je peux vous dire, pour y aller 3-4 fois par an, qu'en Chine, ils ont besoin de nucléaire, hein, parce que le charbon, ils savent ce que ça veut dire. Voilà. Donc, chez nous, on voit ces énergies-là comme un petit peu des luxes par rapport à ce qu'on a. Quand on se balade un peu, je peux vous dire qu'il y a plein d'endroits où ce n'est pas un luxe de développer des énergies propres, des sources d'énergie intenses, des gens qui veulent accéder au même niveau de vie que le nôtre, voire que celui des États-Unis, qui est, même nous, on veut encore plus. Donc, l'idée, c'est pas de faire se battre les sources d'énergie entre elles. L'idée, c'est d'en développer un certain nombre et puis ensuite de les utiliser au mieux, de rejeter celles qui ont trop de désavantages par rapport à celles qui ont plus d'avantages, etc. On n'a pas le temps d'en parler, mais le développement, monsieur en a parlé un petit peu, le développement du stockage de l'énergie est fondamental parce que sans stockage, vous n'avez pas les mêmes solutions qu'avec du stockage, etc., etc. Donc les choses progressent, avancent. Et on fait le pari. La recherche essaye toujours d'être en avance de phase. Je vous ai parlé tout à l'heure, le nucléaire a deux longueurs d'avance dans sa recherche par rapport à ce qu'il peut exploiter aujourd'hui. On cherche déjà la génération 4 de fission et puis la nouvelle génération de fusion. Voilà. Mais ce sont des choses. La génération 4, elle arrivera en fonctionnement très probablement dans une trentaine, 30-40 ans et la fusion dans 50, quelque chose comme ça. Voilà. C'est le genre de... Alors après, la vitesse à laquelle ça se passe, ça dépend de la société. J'étais un jour dans un dîner au Parlement européen et là, j'avais été assis à côté d'une parlementaire, je crois, suédoise, qui me dit la question habituelle, alors c'est pour quand la fusion, etc. Et je lui ai répondu, elle s'attendait à ce que je lui dise 50 ans, parce que c'est la réponse qu'on fait depuis 50 ans, donc il n'y a pas de raison. Elle marche bien, celle-là. Et je lui ai répondu, c'est la surprise, je lui ai répondu, c'est pour quand vous le déciderez. Parce qu'en fait, on voit que la demande sociétale influe énormément mes budgets. Il y a des années où j'ai beaucoup plus d'argent que d'autres parce que les années où le pétrole est beaucoup plus... Alors, c'est peut-être pas des années, mais disons des périodes où d'un seul coup, le pétrole devient vraiment inacceptablement cher. Puis d'un seul coup, le pétrole devient beaucoup plus cher. Et puis, on s'assoit un petit peu sur le CO2, etc. Et puis, voilà. Donc, tout ça, ce sont toutes des choses qui se répondent, qui résonnent. On fait des recherches. Alors après, il y a le côté, la recherche scientifique avance. Je crois qu'on l'a suffisamment démontré. Et puis, voilà, on cherche à démontrer ce qui est faisable. Ensuite, à la société d'utiliser sagement ou pas, avec sécurité ou pas. Voilà.
Alors, j'avais promis de ne pas déborder. Ce sera donc la dernière
avec
question.
Avec moi, ce n'est pas possible.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous.
Merci beaucoup. Aider.